Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV.
C'est vous qui représentez le système.
Hello. 9h40, instant M, exceptionnellement raccourci aujourd'hui.
Vous êtes en direct, allez-y.
Une fois par mois, le médiateur des antennes de Radio France prend notre place avec sa valise de tweets, de mails et de courriers papier. 3000 par mois, vous lui en envoyez. Un sujet vous a particulièrement interpellé ces derniers jours, la vaccination, et pas forcément là où vous l'attendiez sur France Inter.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Bruno Denas.
Bonjour Sonia, bonjour à tous.
3000 par mois.
Ah oui, ça fait de la lecture. Hein.
C'est ça, jour et nuit. Je vous propose un peu d'infos, la Madeleine du vendredi, une plongée dans les unes de presse, et puis ensuite, évidemment, je vous laisse avec votre médiateur. C'est une révolution de palais. Catherine Neil, 30 ans de carrière chez TF1, directrice de l'information du groupe depuis 8 ans, quitte la chaîne privée. Elle est remplacée par Thierry Tullier. Thierry Tullier, vous vous souvenez, c'était le directeur de l'info de tout France Télévisions et aussi le directeur de France 2 que Delphine Ernotte a viré en prenant la présidence des chaînes publiques. Thierry Tullier est entré l'année dernière dans le groupe TF1 par la petite porte en dirigeant la chaîne d'info LCI. Il y a fait venir son ancien adjoint du service public. Il y a fait venir également David Pujadas, son visage du 20h de France 2. Bref, les anciens de France Télé à l'assaut de TF1 pendant que, ironie du sort, on retrouve plein d'anciens de TF1 au poste clé chez France Télé. Sinon, que dire de cette année électorale? Sinon qu'elle aura déclenché un mercato de l'info inédit dans le paysage audiovisuel. On vous a parlé des voix et des visages. Exit David Pujadas sur La 2. Exit Thomas Soto sur Europe 1. Et ceux qui les ont remplacés, qui ont bougé à leur tour. Mais en réalité, ça s'est joué aussi à l'étage du dessus. Exit Michel Field, directeur de l'info de France Télé. Exit donc hier Catherine Neil, son homologue à TF1, dont le bilan électoral a été émaillé de succès.
Nous sommes à 34 jours du premier tour de l'élection présidentielle et pour la première fois, les 5 principaux candidats ont accepté de débattre entre eux.
Mais également de flop.
Bonsoir Alain Juppé.
Bonsoir.
Merci beaucoup à vous d'avoir accepté d'être le premier invité de cette émission de la rédaction de TF1. Alors Alain Juppé, pendant 60 minutes et pas une de plus, nous allons tenter de révéler votre personnalité.
L'émission politique du dimanche qui s'est donc éteinte d'elle-même sur TF1. Enfin, des JT de TF1 de très bonne tenue, mais qui doivent faire face au JT largement renouvelé sur France Télé. Voilà pour l'actu du jour. Le jeu du vendredi, votre Madeleine préférée, a gagné ce matin la captation des damnés. Bon, évidemment, j'ai un grand spécialiste de la culture sur mon plateau aujourd'hui, dans mon studio, mais j'ai pas le droit de dire qui c'est parce que c'est le médiateur qui va vous le présenter. Bonjour Vincent Joss.
Bonjour.
J'ai pas pu m'en empêcher. En plus, Vincent Joss, il était là, à ma place, à cette heure-là, pendant longtemps, à ce micro. C'était donc Les Damnés, spectacle qui reprend aujourd'hui à la Comédie Française. Vous l'avez vu, vous, à
Avignon? Oui, je vous conseille d'acheter des DVD.
Hein, ouais. Magnifique, voilà. Là, il vous est offert par Lina. Alors pour cela, vous m'envoyez un mail très vite à l'instant M tout attaché à radiofrance.com. Voici la question du jour. Nous sommes en 1977. Mais quelle était donc cette émission de télévision qui fête ses 40 ans?
Je vous offre un nouveau générique et j'espère qu'il vous plaira. Il y a du mal à venir, mais il est beau, vous allez voir.
Vous allez l'avoir dans la tête toute la journée. L'instant M à radiofrance.com. Le premier arrivé à gagner. Bonne chance à vous tous.
L'instant M. Le rendez-vous média de France Inter.
Cyril Petit, vous le savez, a rejoint la bande de l'Instant M cette année. Cyril Petit, qui est donc rédacteur en chef central. J'arrête
toujours
de me moquer
central,
de votre titre.
Bonjour Cyril.
Au JDD. Ça va Cyril?
Ça va très bien, merci.
Alors, je vous le montre pour ceux qui nous regardent en vidéo.
C'est lourd.
Vous, c'est très lourd, c'est très gros et c'est très beau. C'est la sortie mardi prochain de ce livre de Patrick Evenot, 100 ans à travers les unes de la presse. Un livre qui vous a fait réfléchir au poids, mais pas au poids physique, hein, que conservent les unes de presse, alors même, grand paradoxe, que la presse décevant de moins en moins, Cyril.
En effet, Sonia, c'est justement tout le paradoxe. On n'a jamais autant regardé et commenté les unes. Toutes les chaînes d'infos font leur revue de une. Pas seulement une revue de presse, hein, revue de une, c'est très visuel. À chaque grand événement, tragique ou heureux, on voit fleurir sur les sites internet des diaporamas avec toutes les unes du jour. Les plus frappantes de ces unes sont relayées sur les réseaux sociaux. On a vu récemment celle attaquant Trump après Charlottesville aux États-Unis. Chaque soir, on attend en avance les unes du lendemain. Celle de Libé est parmi la plus attendue, la plus partagée, alors même que le quotidien ne se vend plus qu'à 20 000 exemplaires en kiosque.
C'est ça, moi, que je trouve flagrant. C'est-à-dire qu'il y a seulement 20 000 personnes qui vont acheter cette une en kiosque. Et il y a des centaines de milliers qui se la partagent sur Internet.
Les abonnés derrière tout ça. Mais voilà, les unes sont très très partagé. Celle de l'équipe, dès qu'on a un grand résultat sportif, elles sont hyper attendues. Et puis, grâce au numérique, les Français se ruent sur les couves du New Yorker, de The Economist, du Spiegel allemand. Ils ne liront jamais le journal, mais ils partageront la une. On a eu encore un exemple cette semaine avec la une de The Economist qui a été relayée des centaines de fois déjà sur les réseaux sociaux.
Et qu'on a vu en boucle sur BFM TV depuis ce matin. Et un autre exemple aussi,
tout
beaucoup
local,
plus local.
Tous les quotidiens régionaux, par exemple Le Dauphiné Libéré, tous les matins, diffusent ses 33 unes sur Facebook. Et ça, les lecteurs, ils adorent.
Ils adorent. Et il faut dire qu'on n'a quand même rien trouvé de mieux depuis l'invention de la une de presse pour hiérarchiser l'info, tout simplement.
En effet, c'est bien rangé, c'est hiérarchisé. Et vous savez, Sonia, la place est chère en une, comme on dit. Alors en Grande-Bretagne, par exemple, un titre comme The Independent, qui a arrêté son édition papier, continue de faire la une et de la diffuser tous les soirs sur le numérique. Edoui Plenel, ancien patron du Monde, qui de temps en temps partage la homepage de Mediapart comme si c'était une.
Comme s'il était encore le patron du Monde. Alors justement, en parlant du Monde, il existe deux grands modèles de une. Alors justement, celle du Monde, elle appartient à la famille des unes qui informe, on va dire.
C'est
voilà.
Ça, on va dire, c'est les grands journaux en termes de format, de type berlinois, donc Le Monde, Le Figaro, Ouest France, Le Canard Enchaîné, elles sont très chargées en texte, c'est-à-dire que la lecture commence dès la première page. Et puis il y a celles qui ressemblent plus à des affiches, elles sont percutantes, c'est elles qui sont les plus partagées. On parle évidemment de Libé, qui en est le spécialiste, dans cette catégorie en PQR, il y a aussi La Voix du Nord de plus en plus, Le Télégramme, parfois Le Parisien, et une grande partie de la presse magazine, à commencer par Society, cette semaine.
Voilà, on vous montre.
Tous les deux, voilà. Cette couve que vous avez vue, vous n'avez pas pu y échapper sur les réseaux sociaux, sur fond rose, chewing-gum,
oui, c'est ça.
Trump et Kim Jong-un, tout sourire. Le titre, Dumb and Dumber, ça fait référence au film Footrack de 1994. Le sous-titre, ces deux dingues vont-ils se faire la guerre ?
Ils avaient un demi-cerveau chacun. Mais ça ne fait jamais qu'un demi-cerveau.
Et oui.
Alors Society, grand spécialiste justement cette année, Society a reçu le prix de la meilleure couve avec Marche ou Crève dans l'entre-deux-tours. Petit secret chez Society, ils ont installé un kiosque, un étalage, ils font des essais, des dizaines d'essais de une et puis ils posent les journaux comme ça et ils voient
qu'est-ce qui marche le mieux
dans la concurrence.
De journaux, parce que ça reste quand même le meilleur outil marketing, c'est le meilleur appel à la vente, vraiment la une.
Bien sûr, la une doit faire vendre alors que la concurrence fait rage chez les marchands de journaux. Conséquence du marketing, de plus en plus, c'est une tendance un peu lourde ces derniers temps. Les unes des couvertures et des journaux, elles changent en fonction du lieu où on l'achète.
Bah ça, j'ignorais, moi.
J'ignorais,
vous me le faites découvrir.
Je suis content de l'apprendre. Alors Paris Match, par exemple, n'a pas la même couverture en France et à l'international. Récemment, le 24 août, Stéphane Bern et son compagnon étaient en couve de match en France. Quand c'est le roi et la reine d'Espagne qui étaient sur la couverture internationale, on était quelques jours après l'attentat de Barcelone. Autre exemple, et c'est devenu un spécialiste du genre, c'est l'équipe qui régionalise de plus en plus ses unes, jusqu'à 26 éditions différentes pour la reprise de la Ligue 1. À Marseille, on a un visuel de l'OM. Paris, on a un visuel du PSG. Et ça, ça marche. Exemple un tout petit peu plus ancien, mais qui le prouve. En 2009, avant la finale de la Coupe de France Guingamp-Rennes, l'équipe avait fait en Bretagne un carton avec une couve qui était 100% en breton.
Voilà, et cette régionalisation qui fait quand même parfois un peu grincer des dents.
Oui, alors c'est une anecdote qui date désormais, mais voilà, qui montre qu'on ne peut pas aller trop loin dans le marketing. Non. Une une de l'équipe justement avait fait beaucoup parler en 2013. Paris avait battu Marseille 2-0. L'édition nationale titrait « Paris met l'OM à genoux », quand l'édition à Marseille titrait « L'OM méritait mieux ». Ce qui était il est vrai, plus vendeur dans la cité
dans
phocéenne.
Dans la cité phocéenne. Merci beaucoup Cyril Petit, 100 ans à travers les unes de la presse. Donc sort la semaine prochaine chez la Rousse. C'est la fin de ce tout petit Instant M qui sera de retour bien entendu lundi avec toute son équipe, Violaine Balaire, Edouane Tella, Marion Philippe. Pour l'heure, rendez-vous avec le médiateur. Et un mot quand même pour dire bravo à Mathieu, il a reconnu, c'était Téléfoot, c'était 1977. Le médiateur des antennes de Radio France.
France Inter, la séquence du médiateur, Bruno Denas.
Bonjour à tous pour ce rendez-vous mensuel du médiateur. Et s'il est bien un sujet qui, depuis la rentrée, suscite une quantité impressionnante de réactions, eh bien c'est le domaine de la santé et notamment les vaccinations. Alors j'ai reçu un très grand nombre de messages après la première du grand atelier de Vincent Josse qui recevait Isabelle Adjani. Vincent Josse est avec nous, ainsi que Daniel Messager, chef du service santé, sciences, environnement de France Inter. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors pourquoi Vincent Josse est-il avec nous? Eh bien pour ceux qui n'ont pas suivi la première du grand atelier avec donc Isabelle Adjani, voici ce qu'elle a déclaré à propos de la vaccination.
Pour moi, c'est vraiment une façon de détériorer, pour ne pas dire de détruire, l'éclat biologique d'un être dès sa naissance. Il s'agit d'un mensonge scientifique qui joue sur la peur des gens. Et je me réfère à nouveau au Premier ministre, la rougeole comme étant...
Un danger.
Ah bah plus qu'un danger, un danger absolu, hein, si on l'entend. Manque de chance, par exemple, cette année en Suisse, la rougeole a fait sa première victime depuis 2009, mais cette victime était vaccinée. Il y a eu aussi cette épidémie d'oreillon à l'université d'Harvard l'année dernière. 99% des personnes infectées étaient vaccinées.
Alors, il est vrai qu'Isabelle Adjani a proféré de belles contre-vérités qui ont choqué un grand nombre d'auditeurs, comme Pascal. Une femme connue ne peut servir d'alibi à la propagation de fausses nouvelles qui met la population en danger. Alors, Vincent Josse, expliquez-nous pourquoi cette actrice connue et reconnue a voulu aborder ce sujet.
Parce que je lui ai proposé de venir s'exprimer sur tous les sujets qu'elle désirait. C'est le propre de cette nouvelle émission qui a commencé à la fin du mois d'août avec Isabelle Adjani. C'est de pouvoir venir avec des chefs cuisiniers, avec des écrivains, avec des comédiens, comme elle l'a fait majoritairement, mais aussi de pouvoir donner un point de vue ou des points de vue sur l'actualité. Isabelle Adjani est quelqu'un qui est insomniaque, qui regarde beaucoup la télé, les chaînes d'info et Arte la nuit, qui lit des journaux et qui se sent très concernée par ce qui se passe autour d'elle.
Alors, pour Daniel, par exemple, Isabelle Adjani a pu développer un long plaidoyer anti-vaccin. L'opinion d'une actrice ne mérite pas de peser autant sur un tel sujet. Son prestige peut influencer fortement des auditeurs mal renseignés. Alors, comment avez-vous imaginé de parler de ce sujet des vaccinations ?
Elle avait le droit d'inviter qui elle voulait. Donc, elle m'a demandé de s'exprimer sur les vaccins, sans préciser la teneur de ses propos à venir. Et elle a dit, j'aimerais en studio le docteur Guérardi, qui a toujours mis en garde contre les dangers de l'aluminium dans les vaccins, en disant beaucoup de choses sur les soucis de l'aluminium. Lui, je n'ai pas choisi de le faire venir. J'ai eu envie de faire des reportages, c'est-à-dire qu'on est allé, Vinciane Lomonier, qui est reporter dans le grand atelier, est allé le rencontrer, mais elle est aussi allée rencontrer Alain Fischer, qui a présidé le comité d'orientation citoyenne sur la vaccination, qui a un autre point de vue, bien sûr. On a fait écouter ça à Isabelle Adjani et aux auditeurs, et ensuite, elle a eu quelques minutes pour s'exprimer. Je ne savais pas ce qu'elle allait dire, mais elle a exprimé effectivement un point de vue entier de citoyenne, je dirais.
On peut le dire. Alors, rappelons justement que la parole des invités, bien sûr, est libre, mais cette déclaration a choqué beaucoup d'auditeurs.
C'est un crime contre l'immunité qui, probablement, dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années, serait appelé un crime contre l'humanité.
Vous allez jusque-là ?
Oui, en toute conscience.
Alors Daniel Messager, vous qui êtes journaliste médical, comment peut-on parler de crime contre l'humanité à propos de vaccins ?
Malgré tout le respect que je dois à Isabelle Adjani, que j'aime beaucoup en tant qu'actrice, malheureusement c'est une contre-vérité énorme. Les vaccins n'ont jamais tué, les vaccins ont sauvé en revanche des millions et des millions de vies. Je vous donne quelques chiffres sans vous assommer de chiffres évidemment, mais le nombre de vies sauvées chaque année par la vaccination, déclare l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est 3 millions de vies. Autant de millions de vies qui n'auraient pas été sauvées parce que ces enfants seraient morts d'infections très graves et dont la plupart sont mortelles. Je vous donne un petit exemple qui me semble assez parlant. Une maladie que tout le monde connaît, la polio.
Ah oui.
La polio, l'OMS avait pensé qu'on pourrait l'éradiquer, c'est-à-dire la faire disparaître de la surface de la planète, ce qui n'est pas rien comme avancée dans l'histoire de l'homme quand même, de faire disparaître une maladie. Ça n'est arrivé qu'une fois jusqu'à présent, c'était la variole qu'on a déclarée éradiquée en 1980. Eh bien la polio, on pensait la faire disparaître dans les années 2000-2005. Et puis, il y a un pays dans certains États de ce pays, le Nigeria, ont refusé pour des raisons religieuses de continuer la politique de vaccination. Bien évidemment, qu'est-ce qui s'en est suivi ? Eh bien que les cas ont recommencé à apparaître au Nigeria, puis se sont disséminés dans d'autres pays, et on a été obligé de retarder cette date que l'on pensait donner dans les années 2000 de l'éradication de la polio. On envisage maintenant de le faire dans un an ou deux, mais voilà, je pense que c'est un exemple assez parlant. Quand on arrête de vacciner, évidemment, les virus se remultiplient.
Alors, un autre point qui a également choqué un nombre important d'auditeurs, c'est cet aveu.
La responsabilité, évidemment, revient à chacun, mais moi, cette responsabilité-là, je l'ai prise depuis longtemps. J'ai fait faire des faux pour mes enfants, pour les écoles, pour tout ce qui, administrativement, m'obligeait, entre guillemets.
Alors, Daniel, c'est totalement illégal et dangereux.
Alors, malheureusement, il y a des personnes qui agissent comme ça. C'est illégal pour l'instant. On sait qu'il y a des médecins qui se prêtent, puisque dans le carnet de santé, pour prouver qu'un enfant a été vacciné, il faut la petite étiquette, vous savez, qu'il y a sur les boîtes de vaccins. Donc, on met la date, la petite étiquette et puis la signature du médecin. Donc, certains parents arrivent effectivement avec la boîte. Donc, on colle bien sur le carnet de santé, mais ne vaccine pas l'enfant. On sait que ça se pratique de temps en temps par des médecins. Ce n'est évidemment pas la majorité. On sait aussi qu'il y a des parents qui vont avoir recours à ce système, puisque à partir des enfants qui vont être nés à partir de janvier 2018, 11 vaccins sont obligatoires pour ces enfants. La majorité, il faut quand même le dire, la majorité des parents vont faire vacciner les enfants, le font déjà. Hein. Il y a 70 à 80% de ces enfants qui ont déjà ces 11 vaccins. Il y a une minorité de patients qui vont avoir recours à ce système. C'est malheureux parce que ça n'entre pas dans un esprit de collectivité de la vaccination qui est faite pour sauver et pour protéger la collectivité.
Si tout le monde, en effet, n'est pas vacciné, il y a toujours ce risque.
Oui, alors après, on peut discuter sur certains vaccins qui ont des protections personnelles, mais pas forcément collectives. Mais l'idée de la vaccination, qui est une idée humaine, universelle, magnifique, c'est quand même de protéger la collectivité. Je pense que la mise en place va se faire finalement pas si mal que ça. Peut-être il faudrait-il encore un peu d'informations sur cette mise en place d'ici le mois de janvier, mais le ministère de la Santé s'y emploie.
Alors, Daniel aussi, on va reparler évidemment des vaccinations dès la semaine prochaine avec la campagne contre la grippe. Et là encore, certainement des polémiques à attendre pour une vaccination qui est pourtant très utile.
Alors, si l'on est depuis quelques années dans une tendance à la défiance de plus en plus importante, sur la vaccination contre la grippe, elle existe depuis très longtemps. Moi qui suis journaliste santé depuis assez longtemps, je l'ai entendu depuis très longtemps. La vaccination contre la grippe a vraiment une vertu collective, c'est-à-dire qu'elle protège les personnes les plus faibles. Le virus, ça stoppe le virus d'être vacciné, tout simplement, on ne le transmet pas. Alors, sont visées évidemment les personnes les plus fragiles, les personnes immunodéprimées, les personnes qui ont des maladies chroniques. Celles-ci doivent se faire impérativement vacciner. Et puis, il y a quelque chose qui ne se fait pas en France. Alors, moi, je trouve que c'est un peu curieux, mais autant on oblige des professions de santé à se faire vacciner contre l'hépatite B, par exemple, parce qu'il y a un risque avec la transmission du sang, autant ces mêmes professions de santé qui sont en contact direct avec les personnes les plus fragiles dans les maisons de retraite, par exemple, ne sont pas obligées de se faire vacciner, car ce n'est pas obligatoire de se faire vacciner contre la grippe. Et on sait que chaque année, il y a des épidémies de grippe importantes dans des maisons de retraite auprès des personnes les plus fragiles, parce que, et les familles aussi, mais et les soignants ne sont pas vaccinés contre la grippe.
Merci Daniel Messager, chef du service Santé, Sciences, Environnement de France Inter. Et Vincent Josse, votre invité dimanche?
Maria Callas.
Hein, chouette.
Grand atelier fantôme de Maria Callas.
Bon, il n'y aura pas de polémique
sur les vaccins.
Bon, bah, merci Vincent Josse. Donc rendez-vous avec le grand atelier, c'est tous les dimanches à 15h. Prochain rendez-vous du médiateur dans un mois. D'ici là, continuez à réagir évidemment sur notre site médiateur.radiofrance.fr ainsi que sur Facebook et Twitter.